le président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, c'est dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toute Rivière-Neuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me piquer futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé, c'est mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai dit gamin. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Bonjour, bonjour François.
Bonjour Marius, Mariuska.
Merci. Alors aujourd'hui, le titre de l'émission c'est Loufoque. Vous avez dit Loufoque. Et je vais vous présenter mes invités. Myriam, bonjour.
Bonjour.
Et Benoît.
Bonjour.
Alors, Myriam, on va commencer par toi, ma chère. Oui. Présente-toi à mes auditeurs.
Oui.
En quelques phrases savamment orchestrées.
Oui. Bien senti.
Ben écoutez, je suis artiste peintre, tout simplement, et j'ai eu envie, il y a des années, des années, des années, de monter ce projet que nous avons décidé d'appeler Loufoque.
Parfait. Benoît.
Moi, je suis aussi artiste peintre, MeToo, comme Myriam. Et moi, j'ai eu un parcours plutôt classique à l'École des Beaux-Arts de Paris. Et puis ensuite, je suis toujours resté dans la peinture. Donc voilà.
D'accord. En deux mots. Alors, je vous reçois. Nous vous recevons, pardon. Excuse-moi, François. J'ai tendance à prendre mon côté. C'est mon côté autoritaire.
Dessus, là, ouais.
Oui, c'est mon côté autoritaire. Désolé. Alors, je vous reçois pour faire la présentation aussi exhaustive que possible de l'exposition qui va avoir lieu du 24 avril au 6 mai, qui s'appelle Loufoque et qui aura lieu à la galerie Ménil 8, 8 rue Boyer dans le 20e à Paris. Alors, quelle est cette galerie? Vous pouvez nous la présenter?
Oui, bien sûr. Le Ménil 8 est donc situé 8 rue Boyer dans le 20e arrondissement. C'est un lieu associatif à vocation culturelle qui organise principalement des expositions. Il est géré par un collectif d'artistes regroupés sous l'appellation ADM, artistes de Ménilmontant. Et donc, c'est un lieu qui existe depuis longtemps et qui est merveilleux et qui est dans la rue de la Bellevilloise.
D'accord. Donc, pour information, il y aura deux journées de vernissage de votre exposition. Les vernissages seront le 24 avril et le 4 mai.
Absolument.
D'accord.
Le mercredi 24 avril à partir de 18h et le samedi 4 mai à partir de 16h avec un événement surprise en fin de soirée.
D'accord. Alors, la galerie est ouverte tous les jours de 14h à 19h. C'est bien ça?
Absolument. Elle est ouverte, absolument.
Bien.
En présence d'artistes.
D'accord. Alors, 9 artistes font partie de l'exposition Loufoque. Alors, pourquoi avoir créé déjà un collectif qui s'appelle Loufoque?
Alors, ce n'est pas du tout un collectif, c'est un groupe d'amis. Et donc, avant de répondre à vos questions, j'aimerais citer Pierre Dac en introduction à cet entretien.
D'accord.
D'autant qu'il s'agit de prise de parole. Donc, ce qu'il écrivait, lui, c'est « parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler » sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir.
Putain, c'est pour les journalistes, ça.
Pas que.
Et les hommes politiques, et les hommes et les femmes politiques, tu les oublies dans cette recension.
Je parlais des journalistes qui et tapent donc, le rappel pour les politicards.
Oui.
Et donc l'idée de faire une exposition loufoque m'est venue il y a très longtemps, car je suis fondamentalement née drôle et que dans ma famille on adore déconner, tchatcher, plaisanter les enfants, improviser, comme beaucoup de gens d'Afrique du Nord. D'ailleurs, je dédie cette exposition à mon père, Henri Michel Bokhara, dit El Hachem Bey, qui était auteur de théâtre, romancier, médecin, et qui m'a prescrit depuis mon plus jeune âge, en comprimé, gélule, suppositoire, injection, le meilleur des médocs, le rire providentiel. Donc, dans ma famille, on est inquiet, angoissé, on est noir, comme le réglisse qu'on adore.
Mmh.
Alors, pour conjurer la gravité, on rigole, et le rire est salutaire, il est même thérapeutique, le rire se fout de lui-même, c'est le pied de nez à celui qui se prend au sérieux. Le rire, c'est l'intelligence lumineuse. Le rire, c'est la liberté d'en rire et de conjurer la mort. Très certainement. Pour cette exposition, j'ai voulu rassembler des artistes sous l'appellation loufoque, car le mot me plaît. Il veut dire comique, absurde et appartient au non-sens. Loufoque, à l'envers, fait fuck-loup ou fuck the loup. Pour ceux qui ont l'esprit mal tourné, il y a du loup et du phoque dans nos travaux respectifs, à la fois méchants et gentils, dans une ambivalence très séduisante. Pourquoi avoir choisi ces artistes dans ce groupe plutôt qu'un collectif? Il y a 9 artistes, 9 amis qui disgressent, transgressent le monde tel qu'il est, le travestissent, l'enchantent, le détournent du droit chemin. Il y a dans ces 9 pratiques une interrogation sur la vie. Museau est un dessinateur engagé. Mmh. Il a son regard et son point de vue. Nous l'avons choisi pour faire l'affiche de cette exposition. Un bonhomme à l'envers regarde un tableau à l'endroit sur lequel il est marqué loufoque. C'est à n'y rien comprendre. D'ailleurs, il n'y a rien à expliquer. Tout est dit dans ce monde incongru. Le groupe est donc composé de Alain Saé, ses peintures et ses récréations, Benoît Roman Damat et ses peintures, Bernard Bokhara et ses photographies, Claude Leguet et ses céramiques, Étienne Sag, ses peintures et repeintures, Museau et ses gravures, dessins, peintures, silhouettes, Myriam Bokhara, ses illustrations et ready-made, Odile Bourdet et ses sculptures, Véronique Sag, ses sculptures.
Bon, alors on va donner la parole à Benoît. Benoît, j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs. Alors, parce que tu as un nom et un pseudo. que j'ai bien aimé, Tante Olga.
Tante Olga, oui, ça c'est un... D'abord, pourquoi pas.
Oui, tout à fait.
C'est parti d'un tableau que j'avais fait il y a, quoi, 5-6 ans. Mm-hmm. Et c'est une sorte de babouchka, mais comme j'aime beaucoup les sujets un peu décalés, mm-hmm. et donc une vieille babouchka telle qu'on l'imagine, et telle surtout qu'on n'imagine pas, complètement dégénérée, complètement à contre-emploi et à contre-sens. Et puis je vais bien l'appeler Tante Olga, parce que souvent quand je peins des tableaux, je me raconte une histoire en même temps. C'est-à-dire que je pars de personnages un peu à droite, à gauche, et puis en à mesure qu'ils prennent forme sous le pinceau, Ils prennent vie aussi. Mmh. Ils commencent à avoir une autonomie et une vie à eux.
Et ils t'échappent peut-être.
Et complètement. Et ben justement, d'accord. C'est vivre la liberté. Donc, même si j'en suis le co-créateur, parce qu'il n'y a pas que moi certainement qui l'ai fait naître, cette tante Olga, elle est arrivée comme ça. Et elle m'a fait un coucou et du coup.
Tu as pris son pseudo.
Voilà, on est devenu. Oui, alors là, ça fait un peu schizophrène. On parlait des deux. Mais non, j'ai bien aimé ce nom, cette résonance et ce personnage.
Et donc, quand Myriam est venue te chercher, tu as dit oui tout de suite.
Ah oui, j'ai pas hésité. Non, on se connaît déjà. Enfin, si elle a hésité.
J'ai quelque chose à dire quand même, c'est que ce projet loufoque, il est dans mes tiroirs et dans mes cartons depuis, j'irai 15 ans. Et c'est Benoît Roman d'Amat qui, voyant ses tableaux à la Galerie Peinture Fraîche, je me suis dit, non mais lui, il n'a aucune limite, quelque part. Il
n'a
absolument pas peur de peindre le pire comme le meilleur. Et je me suis dit, bon, ce projet, je vais le faire parce que j'ai en face de moi un artiste qui est véritablement loufoque.
Voilà. D'accord. Mais les autres le sont pas mal. Ils le sont même terriblement. Parce que, bon, vous n'avez pas accès au dossier de presse, puisque l'exposition aura lieu à partir du 24 avril. Mais moi, quand je l'ai reçu, je me suis dit, waouh, ça mérite une invitation. Bon. Pas de quartier. Donc, dont acte. Alors, on a présenté la galerie, on a présenté l'idée de l'exposition, le groupe qui la compose. Les participants, tu les connaissais depuis très très longtemps ou ça a été des coups de cœur au fil de tes rencontres?
Oui, c'est ça. C'est que petit à petit, je me suis quand même posé la question de comment construire un projet pareil. Donc, je suis de toute façon très intéressée par les pratiques artistiques. J'écris beaucoup sur les artistes et j'ai décidé de composer un groupe. Donc, de quelle façon je l'ai composé? Il y a Alain Saé, Véronique Sag, Étienne Sag, Myriam Bocara qui utilisent des outils, des brosses à reluire, des brosses à peindre, des spatulettes, des rabots, des instruments de cuisine, cuillères, balayettes, bois, des objets, chausse-pieds, tiroirs, boîtes, coffrets et cache-pots, cendriers, des poupées, des baigneurs, animaux, miniatures, statuettes, du tout venant, boutons, médailles, fèves, ex-voto, perles, cartes postales, cartes de géographie, diplômes, almanachs. La récup, les chineries dans les ressourceries et vide-greniers constituent le début du processus créatif. C'est une chasse, une pêche miraculeuse à l'objet trouvé, l'objet donné pour ce qu'il est. J'ai voulu confronter ces pratiques d'assemblage et de repeinture avec celles de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la photographie, du mur, afin de ne pas nous enfermer, mais de diversifier les langues et les regards au service de l'absurde, du surréalisme, de l'étrange, du poétique, autant de façons de se foutre du sérieux et de la gravité de l'existence.
Oui. Pierre Dac n'aurait pas renié votre exposition. On lui a consacré une émission et ça nous a fait beaucoup de bien parce que c'est un grand monsieur de la radio. C'était un grand monsieur de la radio, mais il est toujours vivant pour ses fans que nous sommes, François et moi, ainsi que Jean-Michel. Et ça nous a permis, à une grande surprise, de le faire découvrir à des jeunes générations qui ne le connaissaient pas. Mmh. Même dans nos groupes, les jeunes ne connaissaient pas Pierre Dac. Donc on était contents de leur faire découvrir et depuis ils se sont appropriés Pierre Dac.
C'est important. Ouais.
Voilà, c'est très important. Alors, revenons à Loufoque. Tu te réveilles un beau matin et tu décides que Loufoque, ça va être le fil conducteur de...
Oui, mais parce qu'on est dans une période qui est quand même de plus en plus grave.
Prend au sérieux, je dirais. Pas grave. Gravissime.
Il y a aussi, évidemment, la prise de sérieux, l'égotisme.
Entendre des conneries pareilles avec un air aussi d'enterrement, je dirais.
Mais oui, mais oui. Nous, c'est.
Qui fait que donc on a voulu faire cette. cette exposition maintenant, parce que pour moi, le rire, c'est le rire de résistance, c'est quelque chose d'hyper important. Puis je pense le décalage, c'est-à-dire que par rapport à l'information, nous, on n'est pas dans l'information, on est dans nos mondes. Je me suis rendu compte d'ailleurs que, en fait, je vais voir mes copains les uns après les autres et je choisis les œuvres. Et à ce moment-là, ils me montrent leur œuvre et je me rends compte que, en fait, ils sont pas coupés de l'enfance. Donc, ils me montrent leurs jouets, ils me montrent leur sac de billes. Et je me dis, avec ces jouets, avec ces sacs de billes, nous, on va constituer une caverne d'Ali Baba et on attend avec impatience les 40 voleurs.
S'il y en a plus, c'est mieux.
Ah oui, mais ils vont acheter les œuvres parce qu'elles sont là pour être achetées. Rassurez-moi, ils vont pas les voler.
Oui, oui, c'est un monde miniature. Si vous voulez, il y a beaucoup parmi nos artistes, il y a des toutes petites œuvres qui sont des œuvres très poétiques, mises en volume. Il y a des grandes peintures, il y a des sculptures qui viendraient plus de l'art brut. Il y a le dessin de presse. Je veux dire, il y a plein de langues et plein de regards croisés. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de constituer ce qu'on appelle un cabinet de curiosité. Voilà.
Mais
voilà.
Je pense que
l'Expo Loufoque va ressembler à une sorte de cabinet de curiosité qui croise les regards. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des regards bruts, c'est toutes sortes de regards. Et c'est ça qui est intéressant.
Alors, les pratiques, tu as un peu expliqué les pratiques des neuf participants.
Oui.
Alors, il y en a que neuf parce qu'il y a peut-être pas assez de place pour avoir plus de monde, ou bien c'était délibéré d'en faire que neuf.
C'est pas tellement ça, c'est que de toute façon, pour moi, c'est toute action est très très précise, c'est-à-dire qu'il fallait constituer une troupe. Pour moi, c'est pas un collectif, c'est une troupe. C'est avec chacun son langage et avec ce qui est formidable, c'est une communauté de pensée quelque
D'accord.
part. Après ce projet, on aimerait l'emmener en Belgique parce qu'on se sent terriblement belge et pas trop parisien. Parce qu'il y a cette tradition en Belgique qui vient du surréalisme, qui vient de l'autodérision, parce qu'il n'y a pas un peuple qui s'est le plus foutu de sa gueule au moment et après les attentats que les Belges, alors que nous, on a eu un regard extrêmement grave par rapport aux attentats. Et eux ont continué dans une situation aussi dramatique à se foutre d'eux-mêmes. Donc, moi, j'aimerais beaucoup qu'on parte en Belgique, qui est aussi le pays du cartoon, qui est vraiment le lieu du loufoque, quoi.
Bon. Alors, Benoît.
Oui.
Benoît Damat. La photo... Quand je suis rentrée dans le lieu de rendez-vous, je t'ai reconnue tout de suite.
J'espère.
Ah oui, tiens, regarde. C'est vraiment...
On me dit de ne pas me prendre au sérieux.
Oui,
je fais
mais
les choses sérieusement. C'est-à-dire que je ne me prends pas au sérieux sérieusement.
Ah, mais ça se voit. C'est génial. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Alors, donc, pour parler de toi, on dira que tu as un site internet de la galerie Peinture Fraîche.
C'est la galerie, d'ailleurs, Myriam et moi, nous nous sommes rencontrés. Ah bah ça, évidemment, quand on a un esprit subtil comme celui de François, je pense que ça percute, quoi. Il y a quelque chose d'injubilatoire, voilà.
C'est le genre de peinture, faut pas s'adosser.
Oui, non, il vaut mieux éviter ou même s'asseoir dessus. Mais en général, c'est peinture
fraîche. Ça va aller, dessus. François, tu vas te remettre.
Il s'étrangle. Non, c'est donc cette galerie de la rue de Bourgogne, qui est tenue par qui est une amie à nous deux, enfin, entre autres, et qui a l'art vissé au corps, qui est une femme formidable parce que elle est complètement atypique, et surtout elle n'a jamais suivi que son instinct. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de galeries, comme on sait, qui sont très, voilà, installées, je ne critique pas spécialement, mais enfin quand même, et qui sont très convenues, qui sont très attendues, et qui en fait propose la plupart du temps des choses absolument indigestes, en tout cas à notre idée.
Ouais.
Et c'est pour ça que je trouve que l'idée de Myriam était d'autant plus intéressante et résistante de constituer un collectif d'artistes qui, sans refuser nécessairement les convenances de l'art un peu institué, très parisien, bah que nous, on ait une porte ouverte pour nous, où on puisse faire un peu ce qu'on veut, en fait, et qu'on puisse dire ce qu'on a envie de dire, et qu'on puisse jouer comme on a envie de jouer, sans qu'il y ait des grandes personnes au-dessus de nous qui nous tapent sur les doigts dès qu'on fait un coup de pinceau de travers. Voilà. Ça, c'est pour ça.
Ça, c'est la liberté totale.
Bah, c'est jouissif, c'est agréable, c'est bien. Et puis, par les temps qui courent, c'est même du luxe, moi, je trouve.
Alors, donc, tu as donc, le site internet de la galerie de la peinture fraîche. Calme-toi.
Rire de François. Non
voilà. Et tu as un Facebook.
Qui est à mon nom, étant Olga, effectivement.
Voilà. Alors donc, tu as une petite bio que je peux, la lire
pour, oui,
pour les
sûr,
auditeurs,
oui,
parce qu'ils n'ont pas le dossier de presse sous les yeux.
Oui.
Donc après être passé dans l'atelier Caron à l'ENS des Beaux-Arts de Paris, voilà, s'il te plaît. Il travaille en parallèle à des décors en trompe-l'œil pour des hôtels particuliers et des propriétés.
Voilà.
Alors, tu peux m'expliquer ce que c'est ?
C'est une vieille tradition très ancienne du décor peint. Il y en avait déjà à Pompéi, enfin, et en fait, on peint les murs en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'on peut peindre un plafond avec un ciel et bah, des perroquets, des oiseaux, et puis sur les murs, on peut peindre des panoramiques. C'est l'idée d'ouvrir l'espace grâce à la peinture.
D'accord.
Voilà.
On peut même peindre des fenêtres qui n'existent pas.
Exactement, on peut peindre des fausses fenêtres, des fausses portes, enfin, on peut faire ce qu'on veut après. C'est...
À Gennevilliers, il y en a une maison comme ça.
Comme ça, toute peinte, mais on en voit parfois à l'extérieur, dans les rues, tu vois, des grands panneaux peints en trompe-l'œil. Oui.
Tout à fait. Alors, en 1987, il quitte l'ENSBA et l'école du Louvre. Ouh là là.
Mais oui, mais tu n'as pas affaire à n'importe qui.
Je suis impressionné.
Oh, il faut pas.
L'école du Louvre.
Oui, bon, ça c'est pareil. Ce sont des institutions. Enfin, on y apprend beaucoup de choses. Mais
j'espère. Vu ce que ça coûte.
À s'amuser. Non, ce sont des concours. Ça coûte rien.
Oui, mais ça coûte.
Ah non, explique-nous là. Explique-nous.
Non, mais ça les coûte Beaux-Arts. Beaucoup d'efforts. Non,
ah oui, au niveau
l'école
des efforts.
Louvre, l'école du Louvre, par contre. Comment on fait pour aller à l'école du Louvre ?
On passe un concours d'entrée.
Un concours d'entrée,
oui.
D'accord.
Comme les Beaux-Arts sont des concours nationaux.
Oui. Et une fois que tu es admis, par exemple...
Tu payes juste des droits... Enfin, à l'époque, moi, il y a très très longtemps, c'était
à l'époque paléolithique. Parce que ça, tout c'est...
Aujourd'hui, je pense
pas paléolithique.
Tout s'est dramatisé, de ce côté-là.
Bah ça, c'est évidemment, non, mais on a voulu en même temps...
Avant, on pouvait être pauvre et artiste. Maintenant, il vaut mieux être fille de... Ou fils de...
Voilà, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Bon, si je vous dérange...
Non, pardon. Non.
Je plaisante. Non, donc tu as passé un concours, payé les droits d'entrée, et tu as travaillé très dur, parce que l'école... Parce que nous avons une amie commune, Régine, que je salue et que j'embrasse, parce qu'elle est une fidèle auditrice de Pas de Quartier, qui a fait l'école du Louvre, et elle m'a bien expliqué le fonctionnement. Dire, tu bosses à meurtre.
Oui.
Et les gens sont sur ton dos pour vérifier que tu... Parce que comme c'est un privilège, il faut mériter sa place.
Exactement, oui. C'est un privilège qui demande un effort. Ça paraît fou, mais c'est comme ça.
Bien. Alors, tu quittes l'ESBA et l'école du Louvre pour exposer.
Voilà, oui.
Son atelier aux environs de Paris, loin du tumulte et en pleine nature, lui convient parfaitement. Sa peinture explore la nature humaine, quoi de plus riche et insondable. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, oulala.
La nature humaine est riche.
Riche,
bah, ça, c'est une première.
On découvre, c'est un peu comme la peinture fraîche, tu vois, il y a des révélations. Non, mon texte est nul. Hein,
il est absolument tordant. Je me suis dit, il est vraiment loufoque. Vraiment. C'est dommage que Pierre Dac ne soit pas...
Mais ça, je regrette, effectivement, vraiment. On regrette tous. Mais...
Vraiment, il aurait été le premier à vous recevoir et à faire une émission d'enfer.
Je pense qu'avec Myriam, on aurait été les premiers à venir, oui.
Ah, mais bien sûr. Bon, désolé, il n'y a que François et moi, mais on va essayer de faire au maximum de notre, de modestes moyens. Humour et ironie sont les moteurs de sa recherche.
C'est pas mal, ça.
Alors, pour information, nous avons sorti un livre aux éditions du Monde Libertaire, parce que la radio Libertaire fait partie de l'AFA, la Fédération Anarchiste, et la Fédération Anarchiste a une autre... est affiliée aux éditions du Monde Libertaire. Et nous avons sorti un livre sur le moteur de recherche Google, que je vous recommande.
Très bien, oui.
En finir avec
tu
Google.
Tu nous recommandes quoi ? Google ?
Non, en finir avec Google, c'est le titre.
Ah, ça y est, elle est venue gosseuse.
C'est fini, l'émission s'arrête dans 5 minutes.
Oui, avec François, Google. Il ne me reste pas le temps de d'enfiler mon manteau.
Ça, ça a l'air dur. Hein, c'est,
mais oui.
C'est un dur métier.
Très dur. Il est là pour vérifier la ligne éditoriale, mine d'accord. de rien. Mmh. Il ne faut pas le voir comme ça. Hein. Ouais. Et il a raison. Alors, il expose régulièrement à la galerie Peinture fraîche.
Heureux. Non, il ne rit plus, là.
Bon. Mais alors, de dire que la nature humaine est riche et insondable.
Ben, ça peut c'est, paraître c'est... un petit peu bateau, mais c'est pas faux.
Non, c'est un fondement politique, même à la limite.
Oui, mais alors à partir de ce principe, tout est politique. Hein.
Mais oui, tout est politique. L'art est politique.
Exactement, mais qu'on le veuille ou non, effectivement. Ouais. Je pense qu'il y a...
Et de décider d'être loufoque, c'est un acte politique.
Ben, de résistance, comme disait Myriam, et de liberté.
Enfin, oui. Voilà. Et ça, j'admire. Vraiment. Et quand j'ai regardé le dossier de presse, parce que Myriam a eu la gentillesse de me l'envoyer rapidement par Internet, j'ai dit, oh ben c'est géant, c'est top. Et je suis tombée d'un... J'ai imprimé, donc j'étais en train de faire mille une chose, oui. Et c'est ton premier portrait que je suis tombée.
Il y a plus de coïncidence, là, c'est pas
possible. Ah oui, je me suis dit, c'est génial. Je vais regarder les autres portraits, super. Alors, pour en revenir à l'acte politique, tu es sur Radio Libertaire, qui est la radio des anarchistes. Est-ce que tu peux... Oui.
Non, t'occupe.
Ah, pardon. Non. Est-ce que tu peux dire en quoi tu arrives, ton processus pour, comment dire, explorer la nature humaine? Est-ce que c'est possible de l'expliquer aux auditeurs? Parce que, dit comme ça, c'est bateau, mais ça demande un travail énorme.
Il y a un travail un travail de sape, de sapeur. Tu vois, il faut creuser, il faut aller chercher des choses, il faut les... Quand tu parles de nature humaine, effectivement, ça peut paraître bateau au premier abord, mais en fait, c'est un sujet qui demande d'aller fouiller, effectivement, la nature humaine, comme si on creusait quelque chose, un sol un peu dur, tu vois.
Voilà, il ne faut pas s'arrêter à l'apparence, à la surface des choses.
Non.
Il faut creuser.
Voilà.
Alors, comment tu abordes, par exemple, est-ce que tu peins avec des portraits des personnes qui posent pour toi?
Oui. Et non.
Ah.
Ben, y a des personnes qui posent, oui, je peux avoir des
modèles.
Des modèles. Et puis ce que j'aime beaucoup faire, c'est quand on se balade dans Paris ou ailleurs, en bus, en métro, il y a un nombre de modèles infini autour de nous.
Ah, ouais.
Et là, du moment qu'on a un petit carnet de croquis dans sa poche, je vous assure que c'est extraordinaire.
J'ai l'impression d'avoir Daumier en face de moi.
Ben un peu, oui.
Avec les Parisiens.
C'est génial, quoi, parce qu'on on a tout sous les yeux et on n'a qu'à cueillir comme ça les... Alors moi, j'aurais tendance effectivement à les cueillir les visages qui me frappe, enfin qui,
ouais.
qui me...
Non, c'est pas des visages de flics. Pourquoi tu dis qu'ils frappent?
Bah, qui me frappe, oui, enfin qui me touche. Il faut faire extrêmement attention.
Mais
elle
il est féroce.
De ce qu'on dit ici, hein.
Mais il est féroce.
Non, mais il ne rate rien.
C'est rien.
Bon, ça commence bien, là, tu vois.
Tu
commences à avoir peur, mais non.
Ah non, merci, j'espère pas te voir en réunion.
C'est pire.
Daumier est donc effectivement un très bon exemple.
Voilà.
Ça, c'est, voilà,
j'y ai pensé. Ça va donner
énormément. Il y en a eu beaucoup d'autres. Je sais qu'une année aussi, j'avais fait une série qui s'appelait Les Anglais à la plage. Parce que là, sur une plage, des plages au nord, dans le nord de la France, quand on voit des Anglais sur la plage, d'abord, excusez-moi les amis britanniques, s'ils nous écoutent.
Je les froguise.
Non, mais voilà. Bah, ils sont tout rouges, ils sont tout boursouflés de soleil, qui n'ont que très rarement.
Oui.
Et il y a quelque chose de beau.
Ils sont exotiques.
Exotiques pour nous. Et il y a une espèce de, moi je trouve aussi surtout de poésie du banal.
Mm-hmm.
Tu vois, c'est cette idée que dans les choses les plus communes, et même parfois les choses qu'on trouve esthétiquement moches, c'est là où il peut se passer quelque chose. Voilà.
D'accord. Donc ça me fait penser au photographe britannique qui a pris ses concitoyens...
Martin Parr.
Voilà. Ça,
c'est extraordinaire.
Extraordinaire. Mm. J'adore. Quand je vais aux expos de Martin Parr, je suis...
Oui,
ah, complètement. Oui. Je suis en lévitation. Carrément.
Oui,
François, j'ai...
Non, mais j'écoute. Je suis subjugué par ton discours et le discours de notre invité.
Ce n'est qu'un début.
Voilà. Donc, c'est ça pour toi, explorer la nature humaine, quoi de plus riche et insondable. J'ai hâte, puisque c'est le 24, j'ai réservé
mon... Je pense que tu vas courir.
Ah, ventre à terre.
Tu vas, vous allez tous planer quand vous allez faire cette exposition. C'est un peu
alors,
le but.
Hein. Alors, je rappelle...
Enfin, j'espère que tu ne vas pas inviter... parce qu'il y a certains éléments de la nature humaine qui sont quand même assez contestables. Bon, sinon contestés, lesquels? Comme par exemple Netanyahou...
Ah ouais, alors là, oui, Poutine, non, on ne va peut-être pas nous envoyer un carton.
Ah bah oui, bah, fais gaffe, quand tu dis la nature humaine, tu généralises. Hein. Bah, je moi, je mettrais des,
il y aura deux
parenthèses, tu vois.
Ah oui,
d'accord.
Alors, extrêmement attention.
Je rappelle que votre exposition, elle va démarrer le 24 avril, au vernissage le 24 avril, à 19h, c'est ça. Elle se finit le 6 mai. Mais vraiment, vu la qualité de... Déjà dans le dossier de presse, je trouve que c'est dommage que ça dure si peu longtemps. Il n'est pas possible de la voir plus longtemps.
C'est compliqué parce que c'est quand même un lieu collectif. Donc il faut y a un calendrier.
Ah, d'accord, je comprends.
Deux semaines,
voilà. De 14h à 19h, à la galerie Ménil 8, 8 rue Boyer dans le 20e. Et là, on va écouter la première pause musicale, Myriam, que tu as choisie.
Et qui s'appelle donc les Azous de Brigitte Fontaine.
Voilà.
Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc, noir, jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître.
C'est les Azous.
Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales,
avec un veston qui descend jusqu'aux genoux,
les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale.
Voilà Zazou.
Il y a des Azous dans mon quartier.
Moi je le suis déjà à moitié.
À votre tour, âme de séjour,
vous serez tous Azous comme nous, car le Zazou c'est contagieux.
Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement,
et puis on pousse des hurlements.
Si vous rencontrez un jour sur votre passage
un particulier coiffé d'un fromage mou,
tenant dans ses doigts un poisson dans une cage,
C'est un Zazou.
Si votre officier vous dit j'ai de gruyère,
mais malheureusement il ne reste que les trous,
ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière.
Et les Azous.
Il y a des Azous dans mon quartier.
Moi je suis déjà à moitié.
Un de ces jours ça vous prendra.
À son futur gendre avant-hier, ma concierge
disait, voyez-vous, ma fille est un bijou.
Elle est encore mieux que si elle était vierge.
Elle est Azous.
Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car
qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout.
Je suis quelque chose de beaucoup plus rare.
Je suis Azous.
Et les Azous dans mon quartier.
Moi, je suis déjà à moitié.
Un de ces jours, ça vous prendra.
À la société, devant payer sa dette,
devant la guillotine, j'agène, il dit je m'en fous.
Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête.
Je suis Azous.
Avec une mondaine de la place Pigalle,
mon ami Léon a fait les 400 coups.
Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles.
Il est Azous.
Il y a des Azous dans mon quartier.
Moi je suis déjà à moitié.
Et à mon tour, un de ces jours,
on finira par m'amener dans un asile d'aller-mais.
Entre Azous, on s'y retrouvera.
Car c'est fou ça qu'on rigolera.
Quand je me la douche, on chantera comme ça.
Voilà tout de suite, de dis-le.
Voilà. Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission consacrée à l'exposition Loufoque, qui aura lieu du 24 avril au 6 mai à la galerie Ménil 8, 8 rue Boyer dans le 20e arrondissement. Et j'ai oublié de vous dire que le bus ou le métro, c'est Gambetta pour y aller. Alors, Myriam, pourquoi les Azous de Brigitte Fontaine ?
Parce que d'abord, j'adore Brigitte Fontaine, puis j'ai cherché quelle était la chanteuse ou le chanteur qui pouvait incarner quelque chose de totalement déjanté. Donc, évidemment, j'ai pensé à elle, d'autant qu'il y a eu une très belle émission récemment sur elle et que c'est la chanteuse des années 70 qui a une très très grande liberté, une liberté incontestée. Je pense que c'est la plus libre des chanteuses, la plus provocatrice des chanteuses. Et surtout, elle est totalement dans l'instinct, je veux dire, tout est vrai chez Brigitte.
Et sans jamais être grossière. Alors, oui, je faisais remarquer à notre invité qu'il fallait quand même avoir une certaine dose de loufoquerie, parce que le mouvement Zazou, si j'ai bonne mémoire, parce que moi je suis né à la fin du mouvement Zazou, hein, en 44. Et c'était pendant l'occupation, et il fallait avoir quand même un certain sens de l'humour pour rigoler dans les conditions de rationnement, de danger de tous les instants, etc. Donc c'est pour ça que je rends hommage aux Zazou et bien sûr à ma chère Brigitte Fontaine.
Brigitte Fontaine et Mathieu Chédid.
Voilà. Et M. Voilà.
Bon. Alors, dans cette partie, nous allons commencer à dresser le portrait des 7 autres artistes de l'exposition Loufoque, et nous allons commencer par Alain Saez.
Oui, Alain Saez est quelqu'un de passionné de peinture. Je suis allée le voir récemment, donc il fait principalement des paysages énigmatiques, et puis parallèlement il est un peu comme moi, c'est-à-dire que la peinture est tellement grave qu'à un moment donné, on a besoin de récréation. Donc, il y a un certain nombre d'artistes qui pratiquent ces récréations. C'est-à-dire qu'ils sont doubles. Il y a quelque chose de grave et en même temps, il faut fabriquer quelque chose de léger. Donc, il a toujours fait ça, mais je me suis rendu compte que Museau aussi, puisque Museau, depuis tout petit, fait des figures découpées, des bonhommes qu'il peint, donc des scènes, et tout d'un coup, on voit des silhouettes en volume.
D'accord.
Alors, quant à Alain, il utilise des spatulettes,
voilà.
Donc des outils du monde ouvrier, des brosses aussi, des brosses à peindre, et il s'inspire de portraits tirés des Velázquez, des Greco, des Rembrandt, parce que c'est un fou de peinture, et il en fait donc ces petits objets, ces portraits peints, qui sont assez merveilleux.
D'ailleurs, j'ai sous les yeux un dessin qui s'appelle Spatule Dynastie, avec justement les portraits extraits des grandes œuvres, justement.
C'est des portraits qui sont pas sur des spatules.
Tiens, regarde.
Mais c'est-à-dire que j'ai beau passer l'image devant le micro, je pense que nos auditeurs ne voient rien.
Non, mais il faut qu'ils se déplacent à la galerie Lénine 8 et qu'ils le voient. Alors. Alors, Alain Saez, il est diplômé lui aussi des Beaux-Arts de Paris.
Oui, absolument.
Il a suivi l'enseignement de Jean Berthol et d'Olivier Debray.
Oui.
Et il a pratiqué l'art du vitrail. Ça, c'est original. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens. Alors, il expose régulièrement dans les médiathèques, dans la médiathèque de Libourne, Réalité Nouvelle, MAC 2000. À la galerie Peinture Fraîche, bien sûr.
Toujours.
À Paris, à la galerie 3F, à la galerie Azote. Et à Paris, à l'espace Art et Liberté, à Charenton. Donc, il est dit dans le dossier de presse qu'il a construit son musée imaginaire, clin d'œil aux portraits tristes de l'histoire de l'art. Donc, est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi il est si passionné de... Non ? Tu lui as jamais posé la question ?
Si passionné de quoi ?
Des peintures de l'art.
Oui, il a une très très grande culture de la peinture, il s'en nourrit, c'est un peintre jusqu'au bout des ongles, et donc, et en plus il a été enseignant, il ne faut pas oublier qu'il a enseigné la peinture, le dessin, il a été prof d'art plastique dans les écoles, longtemps. Et y compris au Gobelin. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours été confronté à la peinture. Ah. Et le fait de faire de la peinture à l'huile et dans un mode classique, comme il dit, mais en utilisant des couteaux à peindre, donc des spatules, et qu'il recouvre de balsa, c'est précisément revisiter cette histoire de l'art. et puis lui donner un caractère léger. C'est quelque part amener le tableau de maître dans une chose étonnante.
Et inattendue, complètement.
Et inattendue, et avec un outil qui est l'outil de l'ouvrier.
Tout à fait.
Donc il y a ce déplacement de la grande peinture, et même il y a le clin d'œil entre ce qu'on appelle l'artiste peintre et puis le peintre en bâtiment.
Tout à fait.
Voilà.
Merci Myriam. Ça,
Donc il y a une forme il y a une forme d'engagement là-dedans, tout simplement.
Voilà. Alors, donc, merci pour l'avoir présenté. Donc, je rappelle, il faut aller le voir à la galerie Ménil 8, métro Gambetta. Alors, le deuxième artiste,
c'est Benoît Roman Damat. Benoît Roman Damat, que moi j'ai choisi parce que j'ai trouvé qu'il avait un regard extrêmement caustique et qu'il y a quelque chose dans lequel je me reconnais, parce que j'ai été particulièrement espiègle et peste. Et je pense que je n'ai pas changé depuis que je suis grande, si tant est que je sois grande. Et il peint les teignes, il peint les sales gosses, les Sophie, les
Mitraktras,
les Betty Boop, etc. Et donc il rend possible, parce que lui aussi a une manière très classique de peindre,
ouais,
pour des sujets totalement peu séduisants, mais adorable, comme il dit, mais adorable.
Paradoxe, toujours le paradoxe. Mais voilà.
J'ai hâte de voir en vrai les Anglais dans la mer et le parapluie. Ça
oui,
donne envie.
Oui, vraiment.
Ensuite, Bernard Bocara, c'est mon frère, il fait des portraits loufoque parce qu'il vit à Bruxelles, donc Bruxelles est quand même un monde de la marge. Il a rencontré un certain nombre de chanteurs, dont notamment le chanteur Odieux, qui est quelqu'un qui a l'habitude de casser ses guitares à chaque fois qu'il se produit quelque part. Donc en fait, il va chiner. Il constitue un casting, si vous voulez, d'artistes et notamment acteurs, chanteurs, et qu'il déguise dans sa cave, parce qu'il a une culture du cinéma qui est absolument extraordinaire. Et donc, il fait des photos noir et blanc totalement drôles. Moi, je dirais déguisé en western spaghetti, puisqu'il y a un côté comme ça très provoque. Et à la sauce cannibale, parce qu'il faut quand même savoir qu'en Belgique, le pistolet à la sauce cannibale, c'est quelque chose qui existe. Donc je pense que mon frère a cette culture de provocation, cette culture extrême. J'ai à tout prix voulu l'intégrer dans cette exposition, puisque c'est une photo inédite qui n'a jamais été montrée.
Par certains aspects, ça me fait penser un peu à... Bon, c'est dommage, le papier n'est pas... J'ai pas un papier de bonne qualité dans mon imprimante, mais ça fait penser à Man Ray.
Oui. Oui.
Et oui, notamment, sa photo la plus célèbre de sa maîtresse avec la statuette noire.
Kiki de Montparnasse. Oui, il y a un surréalisme dans sa photographie, c'est sûr.
Complet.
Mais c'est un mélange.
Voilà. Donc, on peut la voir sur Flick.
Ah, oui, c'est ça.
Voilà.
Après, il y a Claude Leguet. Donc, Claude Leguet, elle est peintre et céramiste. Je ne peux pas parler des sculptures céramiques de Claude Leguet, qui, de toute façon, a toujours mélangé en même temps et associé diverses techniques, que ce soit des peintures sur le motif au travers de ses pastels, y compris des scènes de photos de famille, donc quelque chose aussi de très biographique chez elle, et en même temps des sculptures qui sont des scènes avec des personnages, des scènes de la vie banale, mais où il y a une formidable tendresse, une formidable perplexité chez elle aussi, que j'aime beaucoup, une poésie à la limite du naïf qui n'est pas naïf du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisie, c'est parce que pour moi, Claude Leguet, c'est authentiquement une conteuse.
Alors, je vais la présenter d'après le dossier de presse. Elle vit et travaille à Montreuil.
Oui.
Elle est diplômée des Beaux-Arts de Paris. elle a développé des activités artistiques et son domaine de prédilection a toujours été la peinture à l'huile, hein, qu'elle pratique dans son atelier, comme tu l'as dit. Et donc, c'est, elle aussi, elle est à la peinture fraîche. Mmh. Voilà. Et elle a... Vous avez dit dans son dossier de presse qu'elle a... elle a eu l'envie de se confronter à la réalité des paysages et de leur lumière par le pastel, dans les années 2000.
Oui.
Le pastel, c'est de plus en plus rare, si mes souvenirs sont exacts.
Non, il y a beaucoup de pastellistes, hein. C'est de la craie sèche, et qu'elle travaille sur le motif. Mais il y a une sensualité, si vous voulez, commune, on pourrait dire, entre le pastel et la terre émaillée. Voilà, donc il y a une cohérence dans les techniques. Je veux dire, les artistes, quand Museau choisit le dessin, la sérigraphie, la gravure et la peinture, il y a une cohérence entre les récits et les techniques. Mmh. Et donc, pour le cas de Claude, c'est parfaitement cohérent le fait qu'à un moment donné, parce que Claude, c'est Claude, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très amoureuse de la sensualité de la matière, qu'on retrouve dans ses huiles, qu'on retrouve dans ses pastels et qu'on retrouve dans ses terres émaillées.
D'accord. Alors elle dit « Les céramiques me racontent deux naissances. Dans la terre, mes doigts donnent leur vie aux formes. Étonnées, endormies, amusantes, mélangées, inouïes, quel travail !» Dans le four, quand je l'ouvre, je reçois dans mes mains émues leur corps chaud, coloré, vibrant, craquant, étincelant, glorieux, quel plaisir. De naissance et pas de mort, les céramiques sont éternelles. Ben oui, elles nous viennent depuis la nuit des temps. Elle a tout à fait raison. C'est vraiment... Ça me donne envie. Alors, donc, François, tu as peut-être une remarque ?
Non, je rien de désagréable à dire jusque-là.
On est rassurés.
Ça m'aurait bouche bée.
Bien. Alors, le troisième...
C'est Étienne Sag. Étienne Sag, excusez-moi, mais il m'a envoyé une bio, donc je ne peux pas résister à vous la lire, parce qu'elle est formidable. Mm-hmm. Après avoir redoublé mon CP dans une école de plein air, où j'ai appris à faire du pain d'épices, on diagnostique une dyslexie en CE1 et la nécessité de porter des lunettes en CE2. Voilà pour mes débuts scolaires. Dès l'âge de 10 ans, je commence une longue carrière de petit boulot, assistant du maréchal Ferrand au Pays Basque espagnol, inspecteur dans la cuisine de Victorine à la Fonda Toki Alley, accessoiriste, acteur et musicien pour les troupes de théâtre, le Folidrome, les voyageurs, les fruits de la passion, factotum au Centre culturel de l'Abbaye à Paris, figurant dans le cinéma, archiviste, conservateur pour le patrimoine familial, peintre gouacheur sur cellulo pour les films d'animation Astérix, médiateur chez Rennes Espace pour le compte de Claude Berry, gardien de musée aux Invalides, régisseur à l'UNICEF et au Mémorial de la Shoah, et surtout brocanteur, restaurateur d'objets, encadreur. En même temps, je participe à de nombreuses compétitions de gymnastique, et peint mon premier tableau à l'âge de 6 ans, le Torero, inspiré par l'Espagne et Bernard Buffet. Ah. Première exposition personnelle en 71 à Paris, puis Valence, Palerme, Caltanissetta, Barcelone, Istanbul, Bordeaux, Libourne et autres expositions collectives, commandes publiques pour une fresque. Mes collections sont plurielles, mêlant des chapeaux, des boîtes d'allumettes, des instruments de musique, des couteaux, des ancêtres des îles Fidji et autres objets d'art premiers, des photographies anciennes, des billets de banque, des gravures, des cartes de géographie, scolaires ou d'état-major, des 33 tours. Certains de ces documents deviennent alors les supports de mon univers pictural, puis toute une rhétorique des glissements et des recouvrements visuels est donc à l'œuvre, mettant en scène, avec recherche, des Indiens, des Africains, des bigoudens, des ouvriers en bleu de travail, des paysans, des boxeurs, des basques en béret, des hommes en slip.
Alors, le dossier de presse le présente comme plasticien, performeur, collectionneur et amateur d'art. Voilà. Il vit à Paris et en Gironde. Et il a derrière lui une production abondante et multiforme. Voilà. Et il expose lui aussi à Paris, à Bordeaux, à Libourne, à Valencia, à Caltanissetta, oui. Palerme, Istanbul et Barcelone. Waouh!
Il n'est pas en peinture fraîche.
Et non! Et non, pas en peinture fraîche.
Ça sera très sévèrement châtié.
Ça ne va plus.
On ne peut pas tous être à peinture fraîche. Non.
Bon, si vous permettez, on va enchaîner sur Museau, parce que Museau, bon, bah, c'est un peintre dessinateur qui publie beaucoup depuis son plus jeune âge. Il m'a expliqué qu'il a été à Penningen, il a été aux Beaux-Arts de Caen, il a été aux Beaux-Arts de Paris. À chaque fois, il est resté un an. Voilà. Et donc, extrêmement
pourquoi
vite.
Il reste un an,
parce que je pense qu'il est, il était incompatible, comme on dit, incompatible à l'idée d'une formation longue. Et c'est quelqu'un qui a dessiné extrêmement vite. Donc, à Museau, j'ai demandé une bio loufoque dans laquelle Benoît s'est particulièrement reconnu. puisque c'est une fausse bio. Donc, je vais vous la lire également.
D'accord.
La vie de Museau commença sous les meilleurs auspices. Issu d'un milieu très aisé, il connut une jeunesse dorée, fréquenta les collèges les plus huppés et à l'âge de 16 ans, avait déjà plusieurs fois fait le tour du monde, suivant ses parents de palace en palace pendant les vacances. Après un bac obtenu sans effort avec la mention « très bien », il chercha quelque chose d'utile à faire de sa vie. Il hésita un temps entre l'aide humanitaire ou la peinture. Cette dernière idée lui était venue en regardant les toiles de maître que son père collectionnait et qui ornaient les murs de la demeure familiale, pendant lesquelles se trouvaient des Dubuffet, des Giacometti et quelques tableaux de la Renaissance italienne. C'est ainsi qu'il entra aux Beaux-Arts de Paris où ses professeurs, impressionné par sa maturité, lui conseillèrent de se présenter au prix de Rome dès le premier trimestre.
Alors, il faut préciser ce que c'est que le prix de Rome. C'est un des plus prestigieux européens.
Voilà, oui.
Je veux dire, quand j'ai lu
ça... longtemps, oui, ça a été, c'était le passage obligé pour devenir vraiment un peintre
international.
Officialisé, international, médaillé, enfin à l'époque des salons du 19e siècle.
Oui, tout à fait.
Quand tu étais prix de Rome, c'était la garantie que tu as...
De la notoriété.
Voilà, de la notoriété.
Alors, sachant qu'il y a beaucoup de prix de Rome dont on ne se rappelle pas dans l'histoire de l'art, mais par contre, le salon des refusés,
oui, bon,
ils sont... ils emplissent le musée d'Orsay.
Il y en a trop.
Ah bah, les salons des refusés, a commencé par Berthe Morisot parce qu'elle était une femme,
déjà,
même si elle était la belle-sœur de Manet, je veux dire...
Ça commençait très fort.
Ouais, bah oui. Marie Cassatt, toutes ces femmes qui... Bon, elles étaient dans les refusés, elles aussi.
Donc le travail qu'il montra à cette occasion provoqua l'admiration et enthousiasme. Le collectionneur François Pinault acheta toute sa production. Du coup, la Côte de Museau grimpa de façon vertigineuse et le Centre Pompidou lui proposa la grande exposition...
Bravo, le lapsus.
La grande exposition du cinquième étage. On connaît la suite.
Alors, Museau, c'est M-U-Z-O, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'orthographe de son nom.
Qui est un pseudo. Emprunté à Placide et Museau.
Pif Gadget.
Pif Gadget. Et donc,
la revue communiste. La revue du Parti communiste pour les enfants. Donc déjà, c'est pour un fils de bonne famille, il s'appelait Museau, il faut le faire. C'est une ultime provocation, en tout cas. Ah ben oui.
Oui, là, je comprends pas bien ce que tu veux dire.
Parce que Pif Gadget, c'était la revue du Parti communiste pour les enfants.
Oui, mais Museau, c'est pas son vrai nom.
Non,
mais
de prendre comme pseudo.
C'est son nom.
Ah oui, c'est
un
pseudo.
C'est de nom de guerre.
Donc c'est pas une provocation pour ses parents.
Bah, si, à résonance nettement communiste pour soi-disant une famille très très bourgeoise et très.
Mais oui, mais tu crois que c'est une vraie bio? Moi, je comprends.
C'est une fausse bio.
Ben voilà, c'est une fausse bio, donc on parle pour rien dire parce que...
Il n'y a plus combien de temps.
Comme dirait Pierre Dac.
Non mais là, on devient loufoque nous-mêmes, ce qui est très bien.
Merci, j'osais pas le dire.
Oui, voilà, le mot est lâché.
J'osais pas le dire. Donc là, on a fini sur Museau.
Oui.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause musicale, oui. Chère Myriam, oui. Cher Benoît, et on va venir à toi. Puisque tu es la suivante par ordre dans le dossier de presse. Donc, tu nous...
Je préfère les fleurs de Élise Caron.
Je vous aime à tous mes vents, partout les temps, je vous aime, je vous aime, je ne vous aime pas, je vous aime un peu beaucoup si vous m'aimez profondément à la folie, si vous m'aimez, vous m'aimez un peu plus que moi, évidemment, dans les champs parfaitement déjà hier, je vous ai rencontré dans les champs, il n'y a plus d'enfants, pas du tout, dans la rue, vous ressembliez étrangement, terriblement, même à vous-même, pas du tout, on aurait dit tout votre portrait, tout à fait, très portrait, tout à fait mon portrait, pas tout, moi, je vous aime déjà beaucoup, vous savez, énormément, pas du tout, passionnément, j'ai pas le temps, beaucoup, 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 j'aime les gens, j'aime les enfants, pas tout. J'aime aussi les fleurs des champs, leur corolle charmante, leur corolle folle qui se donne à minuit dans des petits hôtels de la rue du devant. Les fleurs de tous les champs, leurs jolis pétales, leurs jolis petits pétales, leur cœur tendre et charmant comme des coquillages subtils, leurs gentilles étamines qu'on dirait des pistils, leurs petits ticotis, les dons mignons. Et vous, est-ce que vous m'aimez un peu? D'abord, je ne sais pas, je m'en fous comment, vous ne m'aimez pas, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez moi, mon visage, mes yeux, mon cou, mon pancréas, allons, même pas un peu, mon cerveau, et bien moi non plus je ne vous aime pas, jamais, je vous déteste, je vous hais, jamais, je vous exècre, jamais, jamais, je vous abomine indubitablement, jamais je ne vous aimerai, jamais, 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 je m'en fous, je préfère les autres, je préfère les fleurs, je préfère les fleurs, je vous dis, je préfère les fleurs, et les fleurs me préfèrent aussi d'ailleurs, passionnément, parfaitement, pas tant que ça,
par quoi?
À la folie,
je m'en fous,
pas du tout,
à la folie,
je m'en fous, à la folie, au lit, au lit, pas à tous. Allez,
je préfère les chiens.
Allez, je m'en fous.
Tu viens.
Jean-Pierre Bautier.
Bon, merci, Myriam. Alors, tu nous expliques pourquoi tu as fait ce choix musical en deuxième partie, en troisième partie.
Bah parce que Élise Caron, autant que Brigitte Fontaine, est une déconneuse de haut vol. Qui adore improviser, qui est très clownesque, qui est une très grande chanteuse, qui a été autant comédienne que musicienne, et que je suis depuis des années. Et donc, je me suis posé la question par rapport au projet Loufoque, quel choix faire? Et évidemment, je suis tombée assez rapidement sur ce jeu musical, où elle a interprété la poésie de Jacques Rebautier, et elle faisait souvent des duos avec d'ailleurs le poète lui-même, et là c'est avec une autre personne, et en plus de ça nous sommes au printemps, donc je préfère les fleurs, ben pour moi c'est très raccord, surtout que c'est un couple qui a priori se drague et qui finit par se détester, donc il y a une espèce de causticité que j'aime beaucoup dans cette fausse déclaration d'amour, surtout les marguerites, et je t'aime un peu beaucoup passionnément à la folie, pas du tout, ressemblerait à la causticité de Benoît Roman Damat. Donc je trouve que c'est totalement raccord, et sans compter que c'est un jeu musical qui est passionnant, qui est très proche des double six, et donc bravo Élise.
Alors Myriam, on va demander à Benoît, qu'on n'a pas entendu depuis un moment, de te présenter.
Excuse-moi, voilà. Je te coupe là.
Oui.
Les double six, c'est pas Christiane Legrand qui chantait avec eux?
Oui.
Ouais. Oui. Une très très bonne chanteuse, et elle a fait du jazz.
Et,
ouais.
Et Mimi Perrin.
Ouais.
Ouais. Je te donne sa bio.
Tiens, la bio, puis tu peux lire cette partie-là aussi. Vas-y, la bio.
Non, mais tu lis, tu n'es pas obligé de lire tout un excelso. Tu vas nous dire. Tu connais l'œuvre de Myriam?
En partie, oui, de son immense talent et de sa production importante.
Voilà.
Non, je connais de son travail, je connais ses pastels que j'ai vus à la galerie Peinture Fraîche. C'est vrai. Mais par contre, tes sculptures, je crois que je les ai pas encore...
Non, parce que les ready-made, je les ai montrées à personne. Ils ont été très peu photographiés. Les voilà, c'est-à-dire que dans le dossier de presse, voilà. Il y a des poupées de collection que j'ai chinées notamment au musée de la poupée à Paris.
Et qui sont mises en scène donc.
Et qui sont mises en scène. Là notamment c'est un homme bleu qui est dans un champ de fleurs. Donc il y a ce côté, j'ai appelé l'œuvre Flower Power, mais c'est quelque chose de décadré parce qu'un homme bleu il est plutôt dans le désert et là il se balade dans un champ de fleurs. Voilà. Donc il y a un décalage sécheresse et en même temps pluie, quoi, nord-sud. Mmh. Il y a un humour nord-sud. Et puis, il y a un pop grec monté sur un socle et sur un âne que j'ai appelé Mykonos Rumba. Parce qu'il y a ce côté comme ça, justement,
ce qui
bien, c'est que ça folklorique.
Qui porte l'âne.
Folklorique jusque.
Comme ça, il aurait été utile une fois
oui,
dans sa vie.
Provoque, quoi. Provoque. Parce que Mykonos Rumba, c'est à la limite de l'imposture, quoi. On ne peut pas appeler un pop grec sur un âne Mykonos Rumba. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus.
Ah non.
On ne peut plus rien dire.
Non,
voilà,
c'est vrai. Alors, Benoît, on t'écoute.
Donc, un résumé de la
bio
de Myriam Bocara, et qui a donc un site Instagram, Myriam Bocara, et qui elle
et
pose
son frère,
non,
son
et son frère
s'appelle
on verra
Bocara
plus tard.
Aussi.
Oui, ben, je pense
crois.
Parce que oui, il semble aussi. Vous devinez d'ailleurs où elle expose. J'imagine que c'est comme vous le savez maintenant à Peinture Fraîche.
Remets-toi, bon. François. Remets-toi.
Mais c'est quand même, attendez, c'est quand même une architecte diplômée de Paris Belleville.
Oui, une des plus belles écoles d'architecture de Paris.
Voilà.
Je l'ai visitée.
Et elle entame des études de lettres à Paris, fréquente le théâtre École de Montreuil, les théâtres des quartiers d'Ivry et l'Académie des peintres et dessins Saint-Roch. Ah oui, je connais ça, oui. Et elle se décide à devenir peintre en 1985. Donc, voilà.
Il y a peu.
Mais si elle expose à Paris, Bruxelles, Strasbourg, Genève, la galerie Peinture Fraîche reste sa galerie de référence. Sa recherche se tourne vers un espace urbain ou paysager au service d'une narration énigmatique et silencieuse. Et si sa peinture est teintée d'une certaine gravité, ses mises en scène d'objets en sont la version comique et dérisoire. Les minuscules scènes de genre constituent un hommage à son grand-père, René Bocara, grossiste en petits jouets à Casablanca, à son père, romancier et auteur de théâtre, qui lui a si bien transmis le goût de la loufoquerie existentielle. Voilà pour cette bio.
Merci, je vais la récupérer. Et tu
veux toi parler de tes techniques?
Oui, moi je voulais simplement parler de ces petites sculptures justement que je fais. Je fais donc collection de sculptures animalières et de personnages issus des traditions populaires d'Amérique du Sud, du Portugal, du Maroc, d'Inde et du Japon. Mmh. Et quand le musée de la poupée existait encore, j'ai sélectionné une dizaine de poupées de collection. Étant amoureuse des histoires à dormir debout, avec tous ces petits sujets, j'ai constitué, avec grand naturel, des scènes de couple, des réunions familiales et syndicales, tout ce qui constitue ma vie. Ayant arrêté le théâtre, parce que j'en ai fait quand même beaucoup, et que mon père était metteur en scène et auteur de théâtre, et la marionnette, puisque j'ai commencé à 8 ans à faire de la marionnette, donc dans ma prime enfance, il me fallait continuer à rêver, assez naturellement, et comme hygiène poétique, ces histoires se sont déroulées sur mes étagères, le long des fenêtres qui longent la cour de mon appartement. Ces scènes, ces tableaux, ces sculptures, il leur fallait un socle, comme un tréteau en ville, un plateau, dans un théâtre. Je les ai baptisées minuscules scènes de genre, des bols, des porte-savons, des pots, des cache-pots, des coffrets, des boîtes, des cubes, ont servi de socle. Pour ce qui est de mes illustrations, parce que je présente également des illustrations, les ploufs, et comptines pour enfants ont nourri un imaginaire bien vérolé par l'humour noir, où une vache qui pisse dans un tonneau ne peut se retrouver que face à face avec Napoléon, qui suce évidemment les fils de son caleçon.
mais d'où qu'elle tire tout ça?
Mystère de la création.
Bah, vous connaissez la plouffe, une vache qui pisse dans un tonneau, c'est rigolo, mais c'est salaud.
Ouais.
Et Napoléon est mort à Sainte-Hélène, on l'a retrouvé, ouais. Voilà. Donc en ce moment, je travaille sur ces petites comptines.
Oh.
Totalement folle.
Merci Myriam. Donc on va aborder l'avant-dernière personne. Non, que je dise pas de bêtises. Non, autant pour moi. c'est Odile Bourdet. Voilà.
Alors, Odile Bourdet, je l'ai rencontrée dans mon travail, parce que je suis enseignante aux ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris. Et il y a longtemps, je cherchais un sculpteur avec lequel co-exposer. Et donc, nous avons déjà eu une exposition en duo ensemble. Odile, c'est aussi une artiste d'un art pauvre, d'un art de la récupération. C'est quelqu'un qui a aussi un humour macabre, puisque un de ses sujets de prédilection, c'est le squelette qui est fait de fil de fer et qui a une tête de grelot. Donc il y a quelque chose comme ça qui déjoue la mort. Et en même temps, le jouet pauvre, elle est fille de sculpteur. Elle a travaillé aussi sur des grands chantiers de restauration. Et donc, pour faire ses sculptures, elle a notamment récupéré des boîtes qui servaient à son père, puisque son père était sculpteur, et donc stockait toutes sortes de boîtes. Et pour elle, c'est des trésors, c'est une sorte d'archéologie familiale. Elle dit que chez elle, que ce soit son père ou sa mère, ils fabriquaient tout. C'était des gens qui étaient totalement dans l'usage des mains,
avec les moyens
la
du bord,
poétique, avec les moyens du bord. Voilà, donc c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette chose simple, pauvre, drôle, qui fait qu'on a eu un long travail de collaboration ensemble.
D'accord. Bien, parfait. Donc, Odile Bourdet.
On peut parler de son parcours. Hein,
oui, bien sûr, s'il te plaît.
Donc, Mariama, si tu veux en parler.
Alors, c'est François qui va en parler, puisqu'il a la bio sous les yeux. François, vas-y.
Ah bon ?
Oui, s'il te plaît.
Oh !
Bah oui.
Travailler, toujours travailler.
Ah bah oui.
Vraiment marre. Hein. Bon, alors, enfin. Odile Bourdet, sculpteur, on pourrait dire sculptrice, non ?
Non, sculpteur, c'est très beau. Sculpteur.
Avec un E, non ?
Oui, sculpteur. Non.
Bon, enfin, je veux pas entamer une diatribe. Né en 1955 de parents artistes...
On dit pas l'âge des dames, voyons.
Ah oui. Oh là là, oh non, mais je démissionne. Non. Hey, vas-y, fais-le, toi, parce que...
Non.
J'en ai marre de me faire charrier. D'abord, on n'est même pas payé à Radio Libertaire. Je tiens à le dire.
Et qu'est-ce qu'on fait là, Myriam ? On s'en va.
Bon, alors, j'ai grandi, c'est Odile qui parle, c'est pas moi. Hein.
Oui.
J'ai grandi avec mes trois frères et sœurs dans une maison où vêtements, mobilier, jouets, tout ou presque, étaient faits à la main avec les moyens du bord. Après quelques déambulations périphériques, j'ai rejoint en 1975 l'école des Beaux-Arts de Paris et y ai obtenu mon diplôme en 1981. Par la suite, j'ai présenté mon travail au cours de plusieurs expositions personnelles, Galerie Jean-Claude Ridel à Paris et au Centre culturel des Recollets à Buenos Aires. J'ai également participé à nombre d'expositions collectives dans des lieux très divers, comme la Galerie des Beaux-Arts, la Maison des Arts de Créteil, les Ateliers des Orteaux, etc. Parallèlement, j'ai travaillé de nombreuses années pour les monuments historiques dans la restauration de sculptures, principalement sur les cathédrales de Rouen et de Reims. Mon travail se situerait peut-être au croisement de deux ou trois mondes, celui des arts incohérents de la fin du XIXe siècle, passé depuis peu du dédaigneux statut d'amuseur à une réelle reconnaissance, et ceux de Dada et Duchamp.
Ouais. Bigre, pas
oui,
mal.
Oui,
hein,
oui, ouais, tout à fait. Bon. Je voulais entendre qu'on prononce le nom de Dada et de Duchamp. Parce que vraiment, c'est des grands. Je veux dire, surtout Duchamp. Mais voilà. Bien.
Et nous oui, Dada, c'est pas un mauvais cheval non plus. Hein.
Merci Benoît.
on est rapide ou on l'est pas.
Ah oui. Non mais je vous assure que c'est une émission loufoque.
Ah ben, vous étiez prévenue, non ?
Oui, tout à fait. Mais elle est très préparée, il faut pas croire. Hein.
Ah non, oui, ça c'est. Oui.
Avec des gens de haute volée.
Voilà.
Tous les deux, vous êtes de très haute volée. Vraiment.
Surtout Myriam.
Volleyball.
Voilà.
Ça y est,
je venais de te faire un compliment et elle sort un truc idiot. Alors, il reste encore une personne.
Oui, c'est Véronique Sag, ouais. C'est ça ?
Oui.
Voilà.
Alors Véronique Sag, elle a été professeure d'art plastique. Elle a fait l'école des beaux, les professeurs d'art plastique dans les écoles. Donc, elle a été exactement comme Alain Sahé, même profil, a travaillé avec les enfants pendant une trentaine d'années. Donc, elle s'est nourrie de toutes sortes de techniques, d'influences. Et c'est quelqu'un qui, donc, a pas eu de pratique personnelle. Mais par contre, elle s'est nourrie. Je veux dire, elle a fait œuvre de l'enseignement avec les enfants. Et donc, elle a un art très, très singulier, puisque quand elle a arrêté quelque part de travailler, tout d'un coup, il y a eu l'appel de la création et quelque chose d'incroyable. Bon, elle faisait de la terre, donc elle a modelé des têtes petit à petit, qui sont quand même des têtes très caractérisées. Hein. Que l'on voit dans le dossier de presse, une tête d'homme blanc qui fait des bulles avec son chewing-gum, qu'elle appelle Albert, et qui a un drôle de chapeau sur la tête, et puis une tête d'homme africain, et sur sa tête, il y a coupe en brosse. Donc évidemment, il y a une espèce de citation... qui est provocatrice, mais en même temps qu'elle est provocatrice, c'est une citation à l'esclavage, puisque lui, il est cireur de pompe, quoi. L'Africain est cireur de pompe. Donc, c'est ce côté qui est très intéressant, c'est-à-dire que c'est en même temps inspiré d'une sorte d'art primitif. Elle parle beaucoup des poupées Kachina, donc de tous les rituels qui appartiennent notamment aux sociétés africaines. Donc elle a des sculptures qui sont chargées et en même temps elle croise toutes les traditions votives, qu'elles soient d'Afrique ou qu'elles soient gitanes ou qu'elles soient... Puisque moi je lui ai acheté une œuvre il n'y a pas longtemps qui est un baigneur qui est en haut d'une colonne qui est absolument couverte d'ex voto. Donc ce baigneur en fait c'est un angelot et pour moi c'est une chamane, c'est quelqu'un qui est un marabout, c'est pour ça que je l'appelle d'ailleurs artiste marabout bout de ficelle. Pourquoi? Parce que elle, pareil, c'est un peu comme Étienne, il glane dans les ressourceries, mais c'est quand même des fous d'art africains, océaniens qui ont une très très belle collection chez eux. Étienne est fils d'un grand-père peintre extraordinaire. Véronique, parce qu'ils sont mariés femmes, et petite-fille, enfin ils sont petite-fille et petit-fils. Lui, elle, c'est un verrier très connu qui s'appelait Barillier. Donc en fait, ils ont des ancêtres célèbres. Ils se sont occupés de la mémoire de leurs grands-parents. En même temps, ils font les brocantes et ils vendent dans les brocantes, mais ils vendent, ils collectionnent et ils font œuvre de cet amour de l'objet. Et en même temps, il y a un récit. Et il y a un récit qui part de l'Antiquité et qui va vers un monde actuel qui est la figuration critique chez Étienne et chez elle, quelque chose de... On pourrait dire un travail qui est brut, donc on pourrait dire que c'est une sculpture brute, mais en même temps qui a des vertus thérapeutiques. Voilà ce qu'on peut dire de Véronique Sag.
Alors, je rappelle que cette exposition au FOC, elle est du 24 avril au
6 mai.
Au 6 mai, pardon. Je veux absolument qu'elle dure plus longtemps. Il n'y a rien à faire. à la galerie Ménil 8, 8 rue Boyer dans le 20e, elle est ouverte tous les jours de 14h à 19h. Les vernissages ont lieu deux jours, le 24 avril à 19h, le 4 mai à 16h. Et c'est le bus ou le métro Gambetta pour y aller. Voilà. Donc, alors, Myriam... Maintenant qu'on a présenté les 9 personnes extraordinaires et absolument loufoques qui font partie de l'exposition Loufoque, donc je voudrais que tu en viennes à présenter, Loufoque à livre ouvert et bâton rompu.
Oui, donc ça c'est un texte que... Parce qu'en fait j'ai écrit un premier texte parce que je ne peux dire que avec un stylo à la main. Je suis désolée. Donc j'ai souvent, la, je lis ce que j'écris. C'est un peu comme ça que me viennent le sens des choses. Donc j'ai écrit un dernier texte que j'ai envoyé à Mariama, qui s'appelait Loufoque à livre ouvert et bâton rompu. Mes copains ne sont pas comme les autres, dessinateurs, peintres, photographes, sculpteurs, bricoleurs, marabouts de ficelle, des artistes quoi. Ils rendent hommage, et pas que, aux vilaines Lulu, Sophie, Cracra, Betty Boop, Olive, Minnie Mouse et tant d'autres. Ils peignent des têtes empruntées à Rembrandt, Velasquez, Gréco, Fantin-Latour, sur des brosses et spatules de peintres en bâtiment appartenant au monde ouvrier. Photographie des stars de la scène bruxelloise comme sortie d'un western spaghetti à la sauce cannibale. Fabrique des Vénus noires, des baigneurs comme Angelot, harnachés de médailles et d'ex-voto propres à la collection intime d'un cabinet de curiosité. Mettent en scène des minuscules scènes de genre où des poupées de collection rencontrent des animaux miniatures. Travaille pour une entreprise de transport à roulettes pour squelette tintinabulant. Sur la banquise, Museau, en géant, promène ses tout petits parents, tandis qu'Étienne Sag cartographie des peuples de sa Papouasie intérieure sur d'anciens registres, et que Claude Leguet, les mains dans la terre, accouche de scènes très ordinaires où les animaux mèneraient le monde par le bout du nez. Ils font art de leur pitrerie afin de se faire, aujourd'hui encore, remarquer par la maîtresse. En fait, ils n'ont jamais quitté la salle de classe, le coin où il fait si bon rêver avec un bonnet d'âne. Leur regard est caustique, acide, tendre, poétique et grave. Il fait l'éloge de l'imbécilité heureuse et proverbiale, un monde où le ridicule ne tue pas. Pour Loufoque, mon idée était de réunir ces zoulous, ces zozos, afin de réaliser ensemble un concert cacophonique proche de la stridence d'un boulevard à l'heure de pointe, ou celui du caquettement des poules de basse-cour. C'est chose faite.
Et brillamment. Benoît, à toi. On t'a pas entendu depuis un moment.
Mais oui, je sais pas pourquoi. Je me demande, j'attends les questions.
Non, mais... Est-ce que tu as le trac?
Oui. J'ai tout de suite trompé avec ce type-là, c'est un tracker.
Moi, un tracker, oui, absolument. Je suis absolument pétrifié intérieurement. Enfin, ça n'est qu'intérieurement. Donc.
D'accord.
Pourtant, il y a.
Non, le trac, tu veux dire le trac pour.
Par rapport à la prochaine...
à l'exposition?
Oui.
Il y a toujours un trac. Ça, c'est nécessaire. Enfin, j'allais dire que c'est nécessaire, mais ça me semble salutaire, même. Si on risque rien, on n'y va pas. Tu vois, c'est l'idée que. Il peut se passer. On espère des choses formidables, comme il peut se passer rien. Et c'est toujours un pari. À partir du moment où on rentre dans le domaine, enfin, où on est artiste, ça a l'air un peu bateau et prétentieux de le dire, mais on donne quand même beaucoup de nous-mêmes. On est là, on se met à nu devant tout le monde. Enfin, oui. On offre ce qu'on peut offrir de mieux. Alors évidemment, quand c'est compris, ben. Ce qui est rarement le cas.
C'est à ce point-là.
Avec les sujets qu'on emploie, avec les... On est des atypiques, hein. On aime bien, je pense que ça, tout le monde l'a compris, on aime bien être à côté de la plaque. Et c'est pas la solution la plus facile. Mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi, je crois.
Mais quand même, il y a des gens qui... Moi, quand j'ai vu le dossier de presse, j'ai fondu tout de suite.
Oui.
Ils vont fondre. Et encore, c'est que du papier. Je l'ai vu que sur papier.
Ah oui.
Quand je vais le voir en vrai, ça va être pire.
Oui. Mais ça va être pire, ça, c'est le mot bien choisi. Myriam est effondrée. Mais tu sais, c'est une chose.
François aussi.
Et François, alors là, il en a le. Il dit plus rien.
Il en reste quoi?
Il est quoi? Mais vendre ça, évidemment, c'est toujours. On aime bien, mais il faut vivre ensuite avec ses objets, ses peintures, ses dessins.
Tout à fait.
Et là, il y a un apprentissage. Enfin, il faut apprivoiser. Il faut que l'un et l'autre s'apprivoisent. Et parce que voilà, on peut être emballé par quelque chose, mais en fait, on vit avec une œuvre, avec un travail. On vit avec un morceau de quelqu'un.
Oui.
Et ça doit pas. Enfin, c'est pas toujours facile, quoi. Donc, on a beau dire c'est rigolo, c'est sympa, tout le monde rigole bien, bon, se questionne. Mais ensuite, c'est autre chose de se l'approprier complètement. C'est-à-dire que voilà, on l'achète à la galerie, on le sort de la galerie, on le rapporte chez soi. et on va passer le reste de ses jours, qui j'espère sont nombreux, avec ses œuvres de fou. Donc là aussi, c'est encore un autre risque. Mais le trac, oui, ça, oui, bien sûr qu'on a le trac.
Est-ce que tu as des retours de collectionneurs qui t'ont dit « Je vous ai acheté à telle époque et je suis complètement... Je reviens à votre terre pour vous en reprendre. »
Il y en a plein.
Ah.
Non.
Je suis rassurée.
Non, il y en a quelques-uns.
J'ai obligé de louer un autocar pour
venir. C'était épouvantable. Mais c'est comme dans la bio du jour, tu vois. Mais non, bien sûr qu'on a des gens qui sont accros à notre travail. Enfin, quelques-uns, et qu'on rend complètement fous. Mais on aime bien les rendre fous de notre travail, tu vois. Et enfin, fou dans le bon sens du terme, j'entends, voilà. Donc, quoique, c'est bien s'il commence à dérailler pas mal et que ça, c'est une bonne chose pour les gens.
Non, c'est pour. Je sais pas. Parce que pour s'approprier ton œuvre, il faut rester soi-même la plupart du temps.
Oui.
Tu crois pas?
Oui, bien sûr, oui.
Enfin. Si tant est qu'on est soi-même la plupart du temps.
Ben, voilà, on commence à rentrer dans des questions nettement plus nébuleuses et beaucoup plus compliquées.
Mais, voilà. Donc, est-ce que vous avez comment vous avez décidé du prix des œuvres? Est-ce que vous l'avez fait au...
Je crois que c'est pas encore décidé.
Ah, vous l'avez pas encore décidé?
J'espère que c'est à la tête du client, non?
On attendait une bonne idée, on l'a.
Non, soi-disant, c'est la notoriété qui fait le prix. C'est tout simplement selon les galeries par lesquelles on passe,
voilà. Ah bon,
qui ont des clientèles qui peuvent mettre le prix. La galerie Peinture Fraîche a des artistes qui sont plutôt on dirait des artistes modestes. Voilà, donc on... C'est une expo de toute façon qui va être abordable parce que sinon on gagnerait totalement notre pari. C'est-à-dire que si on était totalement inabordable, donc peu populaire, je pense qu'on ne vendrait pas. Donc on a ce point de vue d'avoir des prix modestes. Globalement, des prix modestes et avec une échelle selon les formats, pour vous préciser, de 3000 euros à 20 euros. Voilà.
Ah, ça c'est vraiment modeste. Mais qu'est-ce que je veux dire? On sait que le marché de l'art, notamment dans les grandes foires, Basel, le FIAC, sert souvent à blanchir l'argent. Les cotes sont fabriquées. Ça permet à des gens d'investir. Et d'éviter de déclarer les impôts, ce qui est absolument scandaleux. Donc, vous n'êtes pas du tout dans ce schéma-là.
Ah non,
merci.
Non, absolument pas.
On est dans la marge, nous. On est dans la marge, c'est-à-dire que, de toute façon, on veut être accessible. On n'a pas des budgets phénoménaux. Moi, je collectionne pas mal. Hein. Et mes prix, je les fais avec ce que je pourrais m'acheter, moi.
Ah, voilà. C'est beau.
Voilà.
Ah, ça, c'est beau.
Voilà.
Je le répéterai.
Oui.
Ah.
Oui. Oui. Et étant fille d'ensemblière, parce que ma mère était décoratrice ensemblière pour le cinéma, j'ai baigné dans un univers d'objets depuis que je suis petite. Donc, du coup, j'ai aucun problème à acheter autant une table, une chaise qu'un tableau. Voilà. Pour moi, c'est les objets de la vie. Et il faut se les acheter. Il faut se les offrir parce que c'est... Parce que c'est la liberté, voilà.
Et puis l'homme ne vit pas que de pain.
Voilà. Mmh. Donc il faut pas avoir peur de ses désirs.
Ah, voilà ce que je pourrais ça dire. C'est beau. Benoît ?
Je suis bouche-bée. Non, mais je suis évidemment tout à fait dans la ligne de ce que dit Myriam. On va pas commencer à jouer les artistes inaccessibles, hors cote, très très prétentieux, et qui rentrent dans un système où malheureusement l'argent, avec ce côté mal compris, mal fait, en tout cas pour le domaine de l'art, fait que tout est faussé, tout est en trompe-l'œil. Et nous, heureusement, on a c'est un luxe qu'on a d'avoir le choix de faire cette exposition, donc loufoque. Il n'y a pas de commissaire d'exposition, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de maîtresse, il n'y a pas de maître, il n'y a pas... Voilà, on est libre. Alors, ça a évidemment un prix à tous les niveaux, mais on est tellement content de le faire parce que, justement, je crois qu'avec notre petite expérience, on peut dire c'est possible. même si c'est du boulot, c'est des sacrifices, c'est du temps, c'est naturellement beaucoup de choses. Chose qu'on vendra certainement moins cher qu'ailleurs, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que, pour qu'effectivement, l'art soit aussi accessible à un plus grand public, à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter, je sais pas moi, un ballon en plastique en forme de chien à combien, 600 millions d'euros.
Oh, enfin, voilà, parce que là,
je citais personne.
Mais,
tu vois ce que je veux dire, c'est cette idée un peu. Non, mais voilà, où là, c'est hors sol, il n'y a plus de raison.
Ah, complètement.
Et si l'art n'est plus accessible, c'est plus de l'art.
Non.
C'est, voilà, enfin nous, c'est ce qu'on.
C'est de l'argent. Autant collectionner.
Argent, tu vois, comme quoi.
Oui, autant collectionner un tas de billets, ça revient au même.
Ben voilà. Oui, non, non.
Ça revient au même.
Donc. Tout comme. Oui, voilà, pareil.
Bon, alors Myriam, on va écouter une dernière chanson que tu as choisie avant de se quitter. Oui. Donc, c'est.
Ha 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 de Henri Salvador.
C'est bien, tu l'as dit une fois.
Ha 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 ha.
Alors, je rappelle que vous, Benoît et Myriam, étaient nos invités pour l'émission Loufoque, vous avez dit Loufoque, pour présenter la prochaine exposition qu'ils font avec 7 autres compagnons et compagnes, l'exposition Loufoque du 24 avril au 6 mai à la galerie Ménil 8, 8 rue Boyer dans le 20e arrondissement, au métro et au bus Gambetta. Pour ceux qui veulent s'y rendre en transport en commun, c'est encore possible avant les Jeux Olympiques. Profitez-en.
Dépêchez-vous.
Bientôt, on va avoir.
Qu'est-ce que t'as, Mariama ? T'aimes pas le sport, quoi. C'est ça.
Dis-le. À raison de 15 millions de personnes plus un ticket à 4 euros, je préfère un autre sport, franchement. Oui. Déjà, c'est du sport dans les transports en commun en temps normal. Oui. Là, ça ne va plus être du sport, ça va être l'horreur absolue. Bien. Donc, Benoît, merci.
Ben, merci beaucoup de l'invitation.
Non, ça a été un vrai plaisir. Et on va se précipiter, François.
François premier.
Oui, moi. On va aller vous voir et on va tâcher, avec nos modestes moyens, de ramener des œuvres à la maison. qu'on va s'approprier parce que c'est le but du jeu.
C'est utile. Dans les
voilà. Voilà. Alors, l'entrée est libre, mais la sortie est payante, c'est ça ?
En gros.
Bien. Merci Myriam, merci Benoît.
Merci Mariam.
Donc, je vous dis à François, merci. Merci à Jean-Michel pour la technique imparable et impeccable. Donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous par les temps qui courent. Merci beaucoup.
Salut, Mariama.
Salut.
Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage. Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car si c'est lui qui m'a jugé, dit Asli Maghrébin. Même ce qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le chiffre de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me piquer futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve.
Hé, 50 kilos de patates, un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, Jo. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui ferait mieux de fermer leur claque-merde.
Je pense que quand on mettra les comptes sur l'envie, ça va plus.
Faut tous tomber, faut se tomber, pour la prendre des décisions.
J'ai collé une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Allez. Attention, ceci n'est pas un exercice. Il alerte à la population et donc...
La connerie à ce point-là. Voilà, je dis que ça devient gênant.
Finalement, c'est un peu sale qui est dans la ville, hein. Il sert à rien de tout.
J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille bulle.
C'est chouette pour une métaphore, non?
C'est pas une métaphore. C'est que t'as des phrases.
En train de brancher.
Ça, c'est une métaphore.
C'est une bonne que tu as de cracher partout devant la race. C'est excessivement bien.
Doute bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau crabe vérole tertiaire du département.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Il alerte à la population et tant pis.
Tu vois les dingues, je les toigne.
Mais une ordonnance.
Et une stélaire. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour 4 points de Paris, pour le retrouver éparpillé par petits bouts de façon puzzle.
On m'a coupé, ça va encore tourner autour du trou de porte.
Quand on mettra les cons sur orbite, ça porte des pitots.
Tu marines dans le pinard comme des scuds dans l'eau. Ton sang plus globule, c'est du 11 degrés 5. Tu causes pas, tu dégueules.
Ouais, Piper.
T'es tendu comme une crampe.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. T'as pas entendu, je suis pas tendu.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
C'est curieux chez les marins,
ce
besoin de faire des phrases.
On te sauve ou je te sauve,
mais on a pris
des décisions.
On ne te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu prépares des nuits blanches, des migraines.
Attention.
Des nervous breakdowns.
Une alerte à la population est en cours.
Tiens, de la part de Mickey Willis.
Non, fais-moi le malin maintenant! On fait moi le malin!
Thank you.
nombre de prestidigitations dans le code des commerces.